Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Comme le monde entier connaît son père, le monde entier pense le connaître lui aussi. Mais si la ressemblance physique avec Alain Delon est plus que troublante, si les douleurs de l'enfance ont laissé des cicatrices chez le père comme chez le fils, les chances de s'affirmer, de s'affranchir et d'écrire sa propre vie étaient bien maigres pour Anthony Delon, fils de l'idole qui sur grand écran fascinait les foules, en flic ou en voyou, mais qui dans la vie semblait punir son fils de trop lui ressembler. Enfin, il nous dira si c'est exactement ça. Fils d'eux, c'est une position souvent enviée, mais quand on sort de la lecture de « Entre chien et loup », qui paraît au Cherche-Midi, on se dit qu'Anthony Delon est un résilient qui aurait pu mille fois disparaître tant le désamour est toxique. Je reçois un fils aimant qui ne fut pas aimé, mais qui pourtant reste fidèle. Je reçois le fils du samouraï. Bonjour Anthony Delon.
Bonjour.
Anthony Delon, on peut donc toute une vie aimer d'un amour filial sans retour ?
Je ne sais pas, parce que ce n'est pas mon cas. J'ai eu quand même de la part de mes parents de l'amour en retour. D'ailleurs, il me semble que ce livre parle d'amour.
Mais il parle d'amour, mais il parle aussi énormément de désamour, qui est infiniment toxique,
non,
il parle de manque.
Il ne parle pas de désamour, il parle de mal-aimer. Il parle de résilience, il parle de reconstruction, il parle de la vie, mais pas de désamour. On peut aimer, mal aimer, et par là... détruire et faire beaucoup de mal, mais il y a toujours
Alors
eu de l'amour dans notre famille.
Hein. Mais la brutalité n'est pas, quand on la vit, quand on la traverse enfant, n'est pas du désamour, c'est juste de l'amour mal transmis.
Non, c'est la brutalité, et peut-être souvent, encore une fois, je ne peux pas m'exprimer pour les autres, mais en ce qui nous concerne, et c'est plutôt une répétition. Vous savez, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui souffre. Moi, j'ai trouvé la manière de penser ces blessures et d'apprendre à vivre en essayant de comprendre. Et en essayant de comprendre qu'à l'intérieur de nous, on a un enfant qui vit. Et c'est important parce que c'est lui qui nous permet de rester ouvert aux choses. Vous savez, ma mère, c'est quelqu'un, par exemple, qui était capable de se renouveler, de se réinventer jusqu'au dernier moment, à 80 ans. Et ça, c'est l'enfant. C'est très important de le maintenir en vie, cet enfant. Et cet enfant, quand il est blessé, quand il est heurté, quand il a souffert, eh bien, il répète. Donc, voilà, on en parlera plus tard. On parlera du pardon,
bien sûr.
De la résilience. Mais cet enfant peut réagir et c'est lui qui réagit. Et donc... avec amour, mais avec souffrance et frustration.
Anthony Delon, je vous ai entendu confier, pour être résilient, il faut pardonner, et pour pardonner, il faut comprendre.
Oui.
Donc vous êtes résilient, mais vous avez aussi écrit ce livre, comme on donne une clé à quelqu'un, une clé qui serait par exemple destinée à votre père ?
Non, une clé plutôt, si vous voulez...
Pour qu'il comprenne, en fait, ce dont vous avez souffert.
Non, d'abord, je n'ai pas écrit ce livre pour mon père, j'ai écrit ce livre...
J'ai pas dit que vous l'aviez écrit pour votre père.
Voilà,
hein. Non,
mais, oui, mais de dire que c'est une clé pour lui, ça voudrait dire que quelque part, il y a l'intention de lui donner cette clé. À la base, non, il a été écrit pour rendre un hommage à mes guides, à ces personnes, justement. Puisque vous parlez de ce désamour que moi j'appelle mal-amour, il y a des gens qui ont été autour de moi, Mireille Darc, mon parrain, Loulou, ma marraine, ces gens-là qui m'ont aidé à devenir aussi l'homme que je suis, ma mère, bien évidemment. Mais surtout ces trois personnes et ces deux murs porteurs, mon parrain, ma marraine, Loulou. Et c'est aussi pour rendre un hommage à ces personnes. Et après, si vous voulez, c'est parti. Après, je me suis laissé emporter par l'écriture, par mes souvenirs, par ma réflexion.
Alors, j'imagine que vous avez remis ce livre à votre père. Comment a-t-il réagi ? Quels ont été ses mots ?
Oui, c'est drôle parce qu'on en revient à lui, mais malheureusement, les autres sont partis. J'ai pas pu leur remettre. Ils sont tous morts. Ça aussi, ça a été un déclencheur dans l'écriture de ce livre, qui d'ailleurs n'était pas un livre, c'était une série, et ça va devenir une série, puisque les droits ont été achetés avant même que je commence à écrire le livre. Donc, pour répondre à votre question, je lui ai remis un peu avant la sortie, et je suppose qu'il l'a lu. Ça
Alors,
fait 3 mois et demi.
Puisque vous parlez justement de cette espèce de répétition au travers d'une malédiction des traumatismes et des manques de l'enfance.
L'abandon notamment.
L'abandon,
dont ma mère a été victime.
Dont votre maman a été victime.
Mon père
dont
et moi-même.
Votre père et vous-même ensuite. Mais votre père, par exemple, vous racontez dans un chapitre de ce livre. Vous dites, à la jeunesse des choses, donc, votre père, il fut mis en nourrice, il avait 4 ans, donc sa mère ne l'éleva pas. Celle-ci le récupéra à l'âge de 12 ans pour le mettre en pension. À l'âge de 17 ans, rêvant d'horizons lointains, votre père demande à ses parents de signer une décharge pour s'engager dans l'armée qui partait pour l'Indochine. Sans état d'âme, la mère d'Alain Delon signe cette décharge qui avait tout d'une mise à mort. En fait, il lui en a voulu toute sa vie d'avoir signé, paraît-il.
Il l'a aimé follement et d'une certaine façon, il lui en a voulu aussi. Et donc, c'est ce rapport à l'amour et c'est cet enfant meurtri, blessé, qui lui répète. Et c'est pour ça... c'est ce mélange d'amour, de peur, de frustration, de colère qui fait ressortir cette violence. Et vous savez, et le cas n'est pas unique. Je le dis au début du livre, je dis cette histoire est universelle pour moi. Il n'y a que le nom qui fait une différence, mais tout le reste c'est universel. Et d'ailleurs, depuis trois mois qu'il est sorti, j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai rencontré des gens dans les salons aussi, beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit merci d'avoir écrit ce livre, parce que j'ai compris comment... D'abord, comment fonctionner peut-être, comment vous m'avez aidé aussi à trouver des clés, justement, vous parliez de clés tout à l'heure, et à penser ces blessures qui nous empêchent de vivre, quelque part. Mais moi, j'ai beaucoup plus manqué de mère que de père dans ma vie.
Oui, effectivement, et on développera ce chapitre-là aussi. Mais le manque du père... Vous écrivez, par exemple, dans « Entre chien et loup », « Mon père ne m'a jamais appelé de sa vie pour prendre de mes nouvelles. Il ne m'a d'ailleurs jamais simplement demandé « Comment tu vas ?»
Eh oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
On a du mal à le concevoir.
Eh oui, c'est comme ça.
Parce que...
Vous savez, je parle de mon grand-père qui est mort en 77.
Oui.
Je parle de l'omerta, de ne pas poser de questions. Et c'est pareil, le jour où j'ai compris qu'il est... Enfin, tout à coup, j'ai posé la question, j'ai mis les morts. Quand, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 77, j'ai réalisé que j'avais donc 13 ans. Et je ne le savais pas. Donc, c'est ce manque de communication, de parole, d'attention. Et j'ai dit, mais j'aurais quand même pu le rencontrer. C'est comme ça.
Vous n'avez pas le goût du malheur, Anthony Delon, mais votre père, en bon scorpion qu'il est, a toujours eu le goût du malheur, malgré la gloire, la beauté, l'argent, le pouvoir. Et vous écrivez, l'un des très rares combats que mon père ait perdu, c'est le combat contre lui-même.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, ce combat. Moi, je n'ai pas répété. J'ai compris très vite, à la naissance de mes enfants, que... Et j'étais sur le point de répéter cette violence. Et donc, je me suis attaché à ça, à ces démons que j'avais à l'intérieur de moi, à cette violence. Parce qu'en fait, on répète pour se soulager. On répète pour se faire du bien, pour enlever ce poids qui nous écrase. D'ailleurs, je parle d'un shoot. Je parle aussi d'un... Vous voyez, je fais allusion à une espèce de shoot, de violence, comme ça, qu'on aurait besoin de... Et moi, j'ai stoppé ça net. Voilà. Et ça... Les plus rudes combats qu'on mène dans notre vie, c'est contre soi-même.
Son avenir, comment l'imagine-t-on quand on est le fils d'une idole, quand on a 13, 14 ans, on se projette ou c'est très compliqué ?
À 13, 14 ans, non, je ne me projetais pas vraiment encore. Non. À 13, 14 ans, je vivais ma vie. Je n'étais pas encore dans des projections. C'est venu plus tard.
C'est venu plus tard. Anthony Delon, vous auriez été une fille. Ce livre n'aurait eu en fait aucune raison d'exister. L'auriez-vous écrit ?
On ne peut pas savoir. Je ne peux pas vous répondre. J'en sais rien.
Mais vous comprenez bien ce qui se cache derrière cette question.
Bien sûr, je comprends. Mais vous savez, j'aurais été une fille, il y aurait certainement eu d'autres turbulences. Peut-être inviter ma sœur un jour dans votre émission, elle vous répondra.
Vous aviez quel âge quand votre père a... commencer à sembloir, en fait, vous soumettre, c'est-à-dire faire plier le mini Delon qui poussait comme ça devant lui. Vous auriez pu ne pas lui ressembler.
10 ans, peut-être.
10 ans.
Mm-hmm. Oui, 10 ans. Bon, même s'il pensait qu'à 5 ans, j'étais déjà un homme, mais je dirais vers 8-10 ans, quelque chose comme ça.
Parce qu'il y a une scène très, très frappante du livre, et il y en a beaucoup, qui démarre pourtant par une déclaration d'amour que vous faites à votre père. Tu sais... « Si t'étais dans l'eau entouré de requins, je plongerais pour venir te sauver, papa. » Et au lieu d'un « merci mon fils, attendri bien sûr », eh bien, votre père va vous provoquer en vous ordonnant d'aller faire en plein hiver, dans une nuit noire, le tour du lac en lisière de forêt. Et ce lac fait 5 hectares.
Mmh. Oui. Mais vous savez qu'en fait, regardez, j'ai entendu ce que vous dites. En fait, c'est « je t'aime ». Ah bon, tu m'aimes ?
Prouve-le-moi.
Prouve-le.
Oui, mais...
Non, mais attendez, parce que c'est la mère. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est cette signature, c'est ce rapport ambivalent d'amour, de peur, de haine, de violence. La personne qu'il aimait le plus au monde, sans doute, sa mère, cette personne qui lui a donné la vie, qui en même temps peut lui donner la mort. Donc en fait, c'est ça l'ambiguïté, c'est ça la souffrance dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement... peut-être que ça veut dire aussi, ah oui, bah, tu sais, la vie, c'est pas aussi simple que ça. Dans la vie, on prend des coups, dans la vie, on a mal. Et donc, peut-être que dans la vie, ça, c'est pas moi qui le dis, j'imagine. Parce que moi, j'ai ma réponse, je vous l'ai donnée, mais il peut y en avoir d'autres. On peut développer un peu. C'est aussi dans la vie, tu sais, tu vas prendre des coups, tu vas être déçu. Tu dois te préparer à ces souffrances-là. Donc, l'amour, ça fait mal.
Sauf qu'un enfant seul en pleine nuit... devant faire le tour d'un lac de 5 hectares, ça peut très mal se terminer.
Oh, il peut pas, enfin...
Si.
Qu'est-ce qui peut se passer ?
Vous enverriez votre fille de 10 ans faire en pleine nuit, en plein hiver, le tour d'un lac de 5 hectares en tenue de
long ? Voilà, la seule chose qui peut arriver,
parce que je sais que vous êtes un père formidable.
De changer de culotte en rentrant, mais...
Allez, allez. Et je précise que
c'est la mère qui parle.
Ben voilà,
pense.
Certainement. Votre père, Alain Delon, d'ailleurs, avait éteint les lumières de la maison pour que vous ne puissiez pas, au loin, vous repérer dans la nuit. Vous l'écrivez.
Oui.
Oui.
La nuit noire. Mais j'étais accompagné de Macha, la chienne.
Bon, ce défi cruel, il avait lieu parce que, bien sûr, vos anges gardiens n'étaient pas là, ni Loulou. Votre gouvernante adorée, ni Georges Baume, grand agent de cinéma, votre parrain, donc deux personnages magnifiques, qui, en fait, tout au long de votre enfance, votre adolescence, et même à l'âge presque adulte pour Loulou, ont ramené par leur présence de la tendresse, et j'ai envie de dire de la normalité autour de vous.
C'est vrai. Et beaucoup de tendresse, beaucoup de bon sens. Tous les deux avaient du bon sens, de manière différente, certes, mais énormément de solidité et de ce que moi j'ai essayé après d'apporter à mes enfants, c'est-à-dire une présence sans projection, une présence permanente. Ils étaient tous les deux mes murs porteurs. Et donc effectivement, j'ai eu cette chance-là. Oui, c'est vrai. C'était des êtres tout à fait à part et uniques. Mon parrain était quelqu'un d'extrêmement cultivé, un intellectuel. Qui vivait, c'était un grand distrait, qui vivait dans son monde. Loulou a eu une vie beaucoup plus dure. Mais c'était une femme d'une grande générosité, qui m'a donné beaucoup d'amour, et en même temps, voilà, très rassurante, structurante, et avec beaucoup de bon sens.
Anthony Delon, vos parents ont divorcé, vous aviez 4 ans. Votre maman vous aimait, effectivement, très puissamment. Mais vous écrivez, ma mère n'était jamais à la maison.
Non, il fallait bien qu'elle travaille, la pauvre.
Souvent en tournage à l'étranger ou en province. Et quand elle était à Paris, elle avait une vie, disons, c'est vous qui prenez cet adjectif, particulière, faite de sorties, de fêtes, jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube. Alors, si j'extrais cette phrase que vous écrivez noir sur blanc dans Entre chien et loup, ma présence de toute évidence devait gêner. Vous l'avez...
Non, ça c'est après, c'est quand, c'est quand on m'envoie en pension, vous voulez dire. Oui, oui.
Dans le chapitre où vous parlez justement du mode de vie de votre maman, mm-hmm. vous dites « ma présence de toute évidence devait gêner ».
Oui, parce que je n'ai pas compris à ce moment-là pourquoi on m'avait envoyé en pension. Et je pense que ma mère, d'ailleurs elle l'a écrit, parce qu'elle a écrit un livre, elle était dans un combat très, très rude contre la drogue, elle l'a dit. Et c'est un combat... qu'elle était en train de perdre. Et c'est une chose formidable que mon père a faite à ce moment-là, puisqu'il a été présent, parce qu'elle l'a appelé un jour, et je le dis dans le livre, et on ne pourra jamais le lui enlever à lui. Elle l'a appelé et elle lui a dit « je suis en train de mourir ».
Et c'est lui qui a tout
j'ai
organisé
besoin que tu m'aides.
Pour et l'envoyer c'est... donc voilà. En clinique et la faire désintoxiquer.
Voilà. Donc à ce moment-là, elle était en train de perdre ce combat, et je pense que moi, je devais gêner, parce que j'étais témoin enfant, à 10 ans, j'étais témoin de choses que je n'aurais pas dû voir.
Alors, je voudrais comprendre, vous partez donc en pension, Anthony Delon, mais à l'âge de 14 ans, après, on va dire, avoir écumé quelques institutions, vous décidez d'aller vivre avec votre père. Vous deviez bien vous douter que le samouraï avait toujours ce même caractère farouche et déterminé et que ça allait faire des étincelles avec l'ado que vous étiez.
Non, pas du tout. Parce que j'imaginais qu'il en serait autrement.
Vous espériez quoi ?
Je ne vais pas dire avoir une vie normale, parce que c'est impossible, mais j'espérais autre chose. J'espérais... Ben, en fait, j'avais surtout envie et besoin de le connaître, d'apprendre à le connaître, de savoir qui il était, lui aussi. J'avais besoin d'être à ses côtés.
Les moments de bonheur et d'insouciance à cette époque-là, Anthony Delon, c'est par exemple quand vous aviez le droit le mercredi d'aller sur les tournages dans les studios de Boulogne-Billancourt, donc les décors, les figurants, tout un monde imaginaire autour de votre père, ça vous fascinait.
Ah oui, mais ça, bien avant ça, hein, j'ai commencé à aller au studio de Boulogne autour l'âge de 5-6 ans et ça a continué. Et pour moi, oui, c'était un monde, le monde enchanté. C'était effectivement les tournages, c'était l'autre. J'en parle beaucoup dans le livre parce que c'est un moment qui m'a énormément marqué. Alors les figurants, les différentes époques, les odeurs, la sonnerie qui annonçait le début de la reprise de la séquence, cette lumière rouge qui s'allume, ce silence, ces portes immenses, ces hauteurs de plafond qui en plus quand on a 5 ans ou 8 ans ou 10 ans nous semblent immenses. Et c'était très très haut effectivement. Donc tout cet univers, moi je me baladais là-dedans, il y avait... J'étais entre la réalité et le rêve.
Est-ce que votre père vous laissait l'observer pendant sa préparation dans la loge,
partout,
pendant qu'il se concentrait?
Oui, je me baladais partout. Je me baladais partout. Il y avait Suzy, sa costumière, Vadé, son coiffeur. Et donc, toutes les loges étaient à côté de la sienne. Et donc, je me baladais là. Puis surtout, j'allais voir aussi le studio. Il y avait plein de petits escaliers qui montaient, j'en parle. Des petites loges partout, avec des figurants, voilà, qui fumaient leur clope entre chaque prise, etc. Et ce bar où ils allaient se nourrir, boire des coups, prendre des bières. Où tout à coup, je parle du gars qui tenait le bar, qui m'appelait Anthony, quelque part. Je ne sais pas, j'avais... Voilà, je faisais partie du décor.
D'une espèce de famille.
Ouais,
mais est-ce
bien.
Que ça vous a donné l'envie de vous aventurer sur les terres de votre père, c'est-à-dire celle du cinéma?
Pas du tout.
Ou pas? Pourquoi?
Non, ça m'a fait aimer le cinéma. Vous voyez?
Mais avec plutôt l'envie de rester observateur.
Je formulais rien à cet âge-là. Je n'avais pas ni l'envie d'être observateur, tout ça. Je vivais les choses au premier degré dans ce sens, comme un enfant. J'étais un enfant. Un enfant, quand vous l'amenez à Euro Disney, il regarde ça avec des grands yeux, il va faire ce manège-là, il va faire celui-là. Ben moi, c'était pareil, il n'y avait pas de manège, mais j'allais voir
les
Romains,
aussi.
J'allais voir celui-là, je rentrais dans le studio, qu'est-ce qui se tourne ici, qu'est-ce qui se fait là. Voilà, tout ça ne se matérialisait pas encore, il n'y avait pas de processus dans ma tête. Donc, je ne me suis pas dit, ah, je serai un jour acteur ou quoi. Non, je vivais ça vraiment avec les yeux de l'enfance.
Comment se fait-il justement qu'un jour, vous soyez devenu acteur?
Parce que on m'a proposé de faire des essais en Italie. En fait, mon premier métier, vous le savez, c'était le cuir. J'avais créé ma ligne de cuir.
On va en parler, qui a eu un succès absolument triomphal.
Oui, on a eu 130 boutiques la première année. C'était, voilà. Bon, et puis ça s'est arrêté. Comme je l'explique dans le livre. Et parallèlement à cela, on m'a proposé de faire des essais en Italie. Et du coup, j'ai accepté de les faire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier film de La Toada. Et surtout derrière, le plus important, le film de Francesco Rosi.
Chronique d'une mort annoncée.
Voilà. Mais Rosi, ça ne se refusait pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas... Même après ces deux films, bon, on a quand même monté les marches du Festival de Cannes. On a ouvert le festival hors compétition avec Chronique. C'était un souvenir. Bon, c'était quelque chose quand même. Mais je n'avais pas encore l'envie d'être acteur à ce moment-là.
Vous cherchiez. Vous auriez accepté, vous avez répété plusieurs fois que c'est en Italie qu'on vous a proposé de faire des essais. Ça aurait été en France. Vous auriez eu un sentiment de chasse gardée par rapport au père?
J'ai fait des essais en France, mais chronologiquement, je crois que c'était un petit peu plus tard. Je crois que c'était pour La Boum. Mais Je ne sais plus si c'était avant ou si c'était après.
Vous savez quoi ? Tout le monde a fait des essais pour la boue.
Oui, oui, vous aussi ?
Non, pas moi. Anthony Delon, cette ressemblance frappante, vous êtes en face de moi, je ne peux pas y échapper, cette ressemblance, ce visage presque cloné trait pour trait avec celui de votre père, même ossature, même regard clair sous les sourcils d'ébène, comme ça, épais. Bref, cette beauté sauvage et ténébreuse qui est tellement identifiable, hein, qui est signée Delon. Il y a les gènes, l'ADN. Quand elle vous apparaissait...
Delon et Canovas, parce que...
Oui, parce que
ma mère,
votre maman aurait
mère,
pu être la
je
sœur.
Je ressens énormément à ma mère aussi,
oui,
mais les deux se ressemblaient quand
voilà,
ils étaient jeunes. Donc on ne
voilà.
sait plus qui est qui là dans l'histoire.
En miroir. Mais cette beauté-là, quand elle vous apparaissait dans le miroir de la salle de bain, vous aviez 16 ou 17 ans, vous la considériez de quelle manière ? Comme un cadeau ou pas vraiment ?
À 16-17 ans ?
Oui.
À 16-17 ans, j'avais l'air d'un... un jeune adolescent, précisément à cet âge-là, 16 ans, je trouvais que j'avais des traits très fins.
Et vous auriez aimé être plus non, mais, rugueux non,
parce que je me rappelle de ma mère qui était sur les barricades en 68, et moi, j'avais envie, après ça, j'avais envie d'avoir les cheveux courts. Mais les cheveux courts, c'était pour les fachos. Donc en fait, je me suis trimballé une grande partie de ma jeunesse, mon enfance en tout cas, ma petite adolescence, avec une coupe de Rolling Stone. Et moi, je voulais absolument avoir les cheveux courts. Très courts, j'aimais bien ça. Et je ne pouvais pas. Donc à 16-17 ans, voilà, je me disais, bon.
Anthony Delon, bon, les bêtises qui amènent chez un juge pour enfants, vous avez quand même commencé à les faire, on va dire, assez tôt, comme si symboliquement... Quand on lit ce livre Entre chien et loup, on se demande si symboliquement vous narguiez pas en fait votre père en étant dans la vie le caïd que lui jouait à l'écran.
Non, ça c'est après, c'est quand j'étais en prison, c'est à 18 ans quand je me suis retrouvé.
C'est un an plus tard, c'est pas si longtemps plus tard, puisque je vous parlais
mais
de 17 ans.
Mais j'ai grandi vite d'un coup.
D'un coup, non mais je vous parlais de 17 ans. Effectivement, l'année suivante, vous vous retrouvez en prison.
Ouais, c'est vrai.
Tout ça c'était pour impressionner le père.
Là, tout ça c'était parce que, non, en fait, la... Vous savez, les adolescents, moi j'ai deux filles, j'ai élevé deux filles, je vois que tout d'un coup, il y a des déclics et pfiou, ça s'accélère. Donc entre 16 et 18, c'est un monde, c'est des années-lumière. Et donc, même entre 17 et 18, au moment où j'étais en taule, et à ce moment-là, j'avais déjà choisi ma vie, ouais.
Alors,
mais c'était pour impressionner personne. D'ailleurs, je n'y pensais pas, mais j'avais choisi ma vie.
Vous imaginiez que vous pourriez passer entre les gouttes ? Ou pas ? On imagine ça quand on est si jeune.
Oui, je pensais que j'allais passer entre les gouttes.
Mais quand vous dites comme ça, d'une manière si naturelle, j'étais en tôle, comme si c'était justement un rôle d'acteur, il faut préciser. En fait, vous aviez, on va dire, chapardé une BM, mais à bord, vous rouliez avec le Mac 50 9 mm qui avait permis de faire s'évader lors d'un transfert Bruno Sulac, l'ennemi public numéro 1 de l'époque, dont vous partagiez la fiancée. Vous faisiez quand même très très fort.
C'est vrai, vous me le rappelez, j'avais oublié ce passage, oui. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que ça va devenir une série, ça et autre chose, mais oui, effectivement, c'est vrai.
Ça va devenir une série, vous avez une idée du jeune
non,
acteur ?
Non, moi je ne m'en occupe pas, je ne m'occupe absolument pas de ça. Dominique Besnard, qui a produit donc, oui. 10% et Media One, ont pris les droits avant même que j'écrive le livre, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que c'est devenu un livre. Par esprit pratique, je dirais, mais en fait, tant mieux. Et ça, dans les deux ans qui viennent, mais c'est eux qui vont s'occuper de tout. Moi, je serai juste consultant dans l'écriture, c'est tout, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apporter au scénario pour nourrir cette histoire. Sinon, le bouquin, il aurait fait 800 pages.
J'imagine. Mais justement, j'aimerais qu'on dessine plus le décor. Il paraît que lorsque, en fait, on vous a arrêté, l'Office central de répression du banditisme a sorti Les grands moyens. On était carrément dans un film
père. Non, on était dans des films beaucoup plus modernes d'aujourd'hui.
Carrément.
Ah oui, avec deux voitures de l'OCRB qui m'accompagnaient chez le juge, avec des menottes, avec une paire de menottes autour du tendon d'Achille et des menottes avec les bras attachés dans le dos. Vous savez, quand ils ont jugé Bruno Sulac à Albi, Ouais. Il y avait les tireurs d'élite sur le toit, ouais, partout. Donc, ils se sont
là, il manquait pour vous juste les tireurs d'élite sur le toit.
Peut-être qu'ils imaginaient que, comme on partageait cette fille, apparemment, à un moment, je ne sais pas, peut-être qu'il allait venir me faire évader, j'en sais rien. D'ailleurs, je dis dans le livre, ils étaient dans un film. Moi, pas. Moi, j'étais dans la réalité.
Bon, vous avez passé un mois à Bois-d'Arcy. En fait, vous avez eu 9 mois avec Sursis. Quand vous êtes sorti, vous avez vraiment décidé de changer votre fusil d'épaule, c'est le cas de le dire. Et vous vous êtes donc lancé dans la création d'une ligne, votre propre ligne de blousons de cuir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le succès de la marque Anthony Delon, il a été absolument phénoménal dès la première année, puisque 130 boutiques ont vendu vos blousons. Paris Match vous a même gratifié d'une couverture en titrant à 19 ans le plus jeune PDG de France.
Oui, c'est vrai.
N'est-ce pas ?
Oui.
Sauf que l'histoire, elle va se terminer.
Vous allez, en notre boudin, on dit.
Vous dites simplement ça ? C'est tiède hein, comme formule.
En
vous, vous écrivez dans un bain de sang, c'est surréaliste. Au point que, et c'est vous qui le précisez dans Entre chien et loup, quelques années plus tard, le journal Libération écrira en 85 puis 86, Alexandre Djoury est victime de 2 tentatives de meurtre en marge de règlement de compte entre Delon père et fils. Alexandre travaille alors pour Anthony, à qui Alain reproche de parasiter la marque de Delon. C'est brûlant tout ça.
Je crois que c'est un mec, il s'appelle Luc Levaillant, qui a dû écrire ça. Vous devriez l'interroger, capitaine.
Mais non, mais puisque vous le reprenez dans votre livre.
Je le reprends, mais c'est lui qui l'a écrit. Je le reprends absolument. C'est factuel.
Voilà.
Voilà.
Donc ça veut dire que ça existait.
C'est factuel, mais
ainsi.
Par contre, ce qui est factuel aussi, c'est que, et c'est pour ça que je parle de bain de sang, mais c'est plutôt, quand je parle de bain de sang, je parle la couverture de Match et mon associé, qu'on voit en photo, dans le sang, dans mon auto Bianchi, rue du Faubourg Saint-Honoré, il s'appelait David Thor, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs, non je crois qu'il est mort de maladie. Et qui était dans la voiture, le bras ensanglanté, rue du Faubourg Saint-Honoré.
Ouais, il avait pris 2 balles
voilà.
De 11,43.
C'est pour ça que je parle d'un bain de sang. Je fais allusion à ça aussi, surtout, où ça s'est terminé comme ça, c'était mon gérant.
Donc, pour clore ce
Mais
chapitre...
On avait aussi la boîte de nuit qui s'appelait à l'époque l'Apocalypse.
Voilà. Donc, on imagine tous les réseaux. Et pour clore ce chapitre, vous dites, quelques mois plus tard, je vais mettre la clé sous la porte sans balancer. Vous écrivez bien, Anthony Delon, sans balancer.
Ouais. Bah oui, parce qu'évidemment, on m'a demandé beaucoup d'interviews pour essayer de comprendre ce qui se passait ici. Et voilà, j'ai pas balancé.
Anthony Delon, en 82, donc 1 an avant de lancer votre propre marque de blousons de cuir, les Japonais de Mitsubishi... Vous en proposez.
Vous voyez, en début d'émission,
ouais.
Je vous ai dit, ça va tourner autour
non,
de mon père. Vous êtes en train. Mais non, mais là, on arrive à la fin,
livre.
Là. Il nous reste 15
mais
minutes.
Mais je remonte tout
on
le livre.
On n'arrivera jamais à la fin, là. Vous êtes encore
je
au début.
Je remonte tout le livre que vous avez écrit. Je ne me base que sur ce que vous
Parlez
avez écrit.
Parlez de la Colombie. Parce que là, j'ai vu dans vos notes, vous avez mis. Je suis Madame Depré. Vous avez écrit en grand avec ses formes.
Ah,
fantastique,
ça,
ce
c'est
truc.
C'est merveilleux, mais vous étiez en train. De développer une autre explication.
Ça,
Madame
c'est,
Depré,
ça, c'est génial.
C'est Loulou, c'est votre Loulou. Gouvernante, qui, que... aussi longtemps qu'elle l'a pu, vous a eu à l'œil, parce qu'elle n'aimait pas vous savoir seule avec votre père. C'est ce
non,
que
elle
vous écrivez.
Elle n'aimait pas me savoir seule tout court.
Oui, mais avec votre père,
Regardez
c'est ce que vous écrivez.
Regardez quand elle vient à Los Angeles.
Et il y a une scène absolument magnifique que vous racontez. Elle avait peur de personne. Elle faisait 1m54. Et un jour, quand votre père se fâche tout rouge... Elle lui dit, mais j'en ai rien à foutre de vous, monsieur Delon, parce que moi, je suis madame Depré.
Non, c'est pas tout à fait ça. Il
c'est
dit, vous savez qui je suis, moi.
Voilà.
Je m'appelle monsieur Delon. Et là, elle lui dit, parce qu'elle venait elle était moitié sicilienne, moitié alsacienne. Donc, elle avait un accent très de l'Est. Et elle lui dit, vous savez qui je suis ? Je suis monsieur Delon. Et elle lui dit, mais je m'en fous, moi, comme ça, avec cet accent, vous voyez. Je m'en fous, moi. Je suis madame Depré. Mais il y avait ce truc, Delon, Depré. Il faisait 1m80, elle faisait 1m54. Elle le regardait comme ça. Vous savez, quelqu'un qui a été déporté avec sa fille. Elle a vécu des moments terribles dans sa vie. C'était un rock, c'était quelqu'un de très dur. Il n'y avait rien ni personne qui l'impressionnait, à part le bon Dieu, le pape. Le pape l'impressionnait beaucoup, et le bon Dieu, évidemment. Et d'ailleurs, le jour où elle est morte, sa sœur est venue me voir. Elle me dit, tu sais, vous savez, elle me dit, elle avait trois amours dans sa vie. Le bon Dieu, vous et le pape.
C'est joli d'arriver derrière le bon Dieu.
C'est joli, le bon Dieu.
Alors, il a fait des grandes digressions, mais je poserai quand même, juste avant de faire une pause, la question que j'avais donc en tête.
On était sur les Japonais de Mitsubishi.
Sur les Japonais de Mitsubishi. En fait, on vous a proposé en 82, on vous a proposé une somme faramineuse pour une pub au Japon. C'était le début, peut-être, d'une carrière au Japon. Et pour faire plaisir à votre père, vous avez renoncé.
Oui,
parce que lui, là-bas, est véritablement, depuis la sortie du samouraï, un demi-dieu sur les terres japonaises.
Bien sûr.
Donc vous avez renoncé.
Ouais, j'ai renoncé parce que je me suis dit, bon, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je le dis après, je dis j'ai eu tort.
Vous avez eu tort.
Ouais, j'ai eu tort, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, on fait des erreurs dans sa vie. Et après, je me suis dit, bon, finalement, ça ne sert à rien de s'engueuler pour un territoire, pour une pub, pour un truc.
À quoi avez-vous renoncé dans votre vie, Anthony Delon, que vous regrettez aujourd'hui ?
Je regrette rien, je crois. Si, ça, peut-être. Je me suis dit, merde, ça aurait été bien de le faire. Mais à part ça, j'ai renoncé à rien. J'ai toujours fait, comme disait Mireille, ce gosse, il en a toujours fait qu'à sa tête. C'est vrai.
Anthony Delon, le scénario qui, quelques années après la sortie du film de Francesco Rossi, Chronique d'une mort annoncée, qui avait fait l'ouverture donc du Festival de Cannes hors compétition, le film, donc le scénario qui vous a vraiment donné envie de revenir au cinéma, vous l'avez lu alors qu'il ne vous était pas destiné. Il était sur le bureau de votre parrain Georges Baume, grand agent donc de l'époque, qui n'avait pas voulu vous le mettre entre les mains, considérait que ce n'était pas pour vous. Et finalement, vous avez pu le lire. Et c'est ainsi que les choses ont démarré vraiment. Après, on va dire, une première tentative qui n'avait pas répondu vraiment à toutes vos attentes, quoi.
En fait, je me souviens, elle s'appelait Georgina. C'était son assistante, elle était anglaise. Et ce film s'appelait Résus Roméo. C'était un film pour Canal+, à l'époque, un film de Philippe Leguet, qui a fait des beaux succès après, qui avait fait un film pour le cinéma qui s'appelait Les Deux ou Les Trois Fragonards, je ne sais plus. Et effectivement, mon parrain voulait pour moi Rosie. Après Rosie, il aurait fallu faire, je ne sais pas, Spielberg, j'en
voilà.
sais rien. Et il avait laissé ce scénario-là. Et en fait, c'était l'histoire d'un... Il y avait eu un très beau casting, Karine Viard, Laurence Scott, Isabelle Pascoe. Et en fait, c'était autobiographique un peu parce que c'était l'histoire de sa sœur qui a été victime d'une leucémie. Et il a voulu raconter cette histoire, sauf que là, c'était un jeune homme, c'était moi, et à qui on faisait une greffe de moelle. Et vous savez, quand on vous donne votre moelle, vous n'êtes pas censé savoir qui est votre donneur. Mm-hmm. Bon, et ça tourne autour de ça. Donc, j'ai été dans les hôpitaux, j'ai fait des recherches, on m'a rasé la tête. J'avais les cheveux très très courts, après on m'a mis un faux crâne, après les séances de chimio, etc. Et on a travaillé sur la psychologie de ce personnage. Et on a fait ce film qui était très beau, très réussi. Et c'est ce film, c'est l'approche de ce personnage, le travail d'interprétation, de recherche, l'échange avec ce
moment
qui m'a donné envie en fait, de faire du cinéma, d'être acteur. Mmh.
Cinéma, mais théâtre aussi. Alors, c'est très étonnant, Anthony Delon. Mmh. Vous dites que la seule fois de votre vie, votre père vous a félicité, c'est quand il est venu vous voir jouer sur une scène de théâtre.
C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je préférais le théâtre au cinéma.
Pourquoi ?
Parce que pour plusieurs raisons. Moi, j'ai toujours été accro à l'adrénaline. J'en parle dans le bouquin. Et le théâtre, si vous voulez, c'est un art vivant. Vous montez sur scène pour une représentation d'une heure et demie ou deux heures. Et là, vous rentrez dans la peau de ce personnage. Vous travaillez pendant deux mois dans les répétitions. Et puis, chaque soir, vous endossez son costume. Et vous, en fonction du public, du lieu, dans la tournée surtout, vous ressentez des choses différentes. Il y a une communion avec les gens, une communion avec le public. Et c'est un peu comme un orgasme qui va durer deux heures plutôt qu'il ne dure 45 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est à peu près le temps d'une prise au cinéma ou à la télé. Et donc, moi, j'ai toujours préféré ça. Et je me suis toujours senti, pas au début, pas dans la première pièce, parce que ça m'avait foutu les jetons, mais il y a une pièce que j'ai faite, une comédie, et après ça, je me suis senti chez moi. Et je me sens très fort quand je suis sur scène.
C'est vrai. J'étais surprise.
Très libre, surtout.
J'ai été très surprise de lire cet avis. Pour peu qu'on bénéficie d'une notoriété en tant qu'animateur télé ou chanteur, on fait maintenant du cinéma. Pratiquement tout le monde fait du cinéma. C'est ce que vous écrivez. Acteur, alors je vous pose la question, est-ce encore un métier ? Comédien de théâtre, certainement, mais acteur ?
D'abord, on fait, on fait un métier quand on gagne sa vie avec ce métier. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi des gens qui disent « Tiens, il a fait 2 jours sur un film, comme ça, et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors qu'il a d'autres activités, il va dire « Moi, je suis acteur. » C'est comme un chauffeur de taxi. Il est chauffeur de taxi quand il roule dans toute la journée en son taxi, et que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ce que j'ai dit dans le livre, je dis que et puis je parle aussi maintenant des réseaux sociaux, d'Instagram.
Oui.
Je dis qu'en fait, à un moment, oui, il y a eu des présentateurs télé qu'on a vus sur scène, jouer au théâtre, surtout au théâtre, hein, des sportifs. Et puis ensuite, maintenant, il y a des blogueurs, il y a des influenceurs. Maintenant, je sais, parce que je le sais, j'ai des copains qui sont acteurs et qui me disent, tu sais, quand on va t'engager, on regarde Instagram, combien tu as de followers, tout ça, parce que ça compte, etc. Bon, alors ça, c'est peut-être un peu quand les gens débutent, etc. Mais avant, l'acteur, il prenait des cours, il travaillait, je ne sais pas comment dire. La compétition est déjà difficile, donc si en plus, il faut aller chercher... il y a des gens que j'ai vus qui gagnaient très bien leur vie dans d'autres métiers et qui, tout d'un coup, ont voulu... surtout au théâtre. Le cinéma, encore, bon, il y a beaucoup de place, mais le théâtre, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que les acteurs de théâtre, c'est des acteurs qui, pour la plupart, qui ont du mal à gagner leur vie. Et quand tout à coup, je voyais une star de la télé prendre un théâtre, alors qu'il y a des acteurs qui sont là, qui crèvent la dalle, pour jouer au théâtre, qui sont des acteurs de théâtre, des intermittents, ça me gonflait un peu. Quoi.
Anthony Delon, à quoi aujourd'hui, alors, ressemble votre vie ? Vous qui avez élevé seul vos deux filles, car leur maman a décidé un beau jour de partir vivre aux États-Unis. J'ai envie de dire, décidément, l'abandon, c'est récurrent.
J'ai vécu 17 ans avec la mère de mes enfants. 17 ans. On a eu ces deux enfants ensemble. On a divorcé. Donc ma fille avait 18 ans et la petite en avait 12 ans et demi, ou un peu moins que ça peut-être, un an de moins. Et après avoir divorcé, effectivement, elle a décidé de partir vivre aux États-Unis.
Mais en tout cas, vous avez été le père et la mère pendant l'adolescence de la dernière.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Bravo.
Et je vis toujours avec mes deux filles d'ailleurs. Elles sont là.
C'est-à-dire, elles sont là. Ça se passe tellement bien qu'elles font Tanguy au féminin, c'est
exactement,
ça.
Exactement. La grande, elle a 26 ans maintenant. Et la petite, 21.
Où en est, Anthony Delon, où en est le projet de diffusion du documentaire que vous avez tourné auprès de votre maman, Nathalie Delon, au cours des dernières semaines de sa vie ?
Eh bien, écoutez, il est en route, c'est-à-dire qu'on a dégrossi un peu les roches, tout ça. Et là, maintenant, il est parti chez des diffuseurs, bien ciblés, et on attend maintenant les retours.
J'imagine que ça devait être terriblement chargé émotionnellement de tenir la caméra auprès de sa mère dans ce contexte-là.
Écoutez, je l'ai dit, ma mère, d'abord c'est un hymne à l'amour. Il n'y a rien d'indécent, il n'y a pas de voyeurisme là-dedans.
Non, je parle d'émotion.
Non, je sais, bien sûr, mais c'est important de le dire parce que ça peut faire peur aux gens. Ils peuvent imaginer des scènes terribles de quelqu'un agonisant, tout ça. Non, on n'a pas été jusque-là, bien sûr. Mais c'est surtout un hymne à la vie et à la famille et à l'amour. Et en fait, si vous voulez, ce qui va ressortir de ce documentaire, c'est que ma mère, et c'est aussi un peu le parti pris, parce qu'on a réfléchi, elle a eu la chance d'être accompagnée jusqu'au bout. Et c'est aussi parler de la mort qui fait peur aujourd'hui en Occident. Et parler des gens aussi qui n'ont pas cette chance-là, qui sont abandonnés dans des maisons de retraite ou seuls. Et elle a eu cette chance, elle a choisi d'abord, elle a choisi la fin, et elle a été accompagnée. Et c'est cet accompagnement-là, c'est tout cet amour-là de mes filles, de moi, qu'on a montré, et c'est aussi son combat. Mais il était perdu d'avance, si vous voulez, donc c'est plutôt son courage à vivre chaque jour. Pas un combat contre la maladie, parce que elle l'appelait Charlot, son cancer. On sent pas cette lutte. On sent quelqu'un qui vit tous les jours. Et évidemment, qui baisse par moment, mais qui combat tellement fort Voilà, c'est comme je l'ai dit, elle m'a donné la vie, elle m'a appris à mourir, parce que je l'ai vue partir. Je n'ai pas filmé, bien évidemment. Et ouais.
Mmh. Quant à ce livre, Entre chien et loup, livre puissant, hein, qui paraît au Cherche Midi, les droits donc ont été achetés pour la télé.
Oui, ils ont été achetés absolument avant par, je le répète, Dominique Bessner et Media One. Et ce n'est qu'après où, en parlant avec Dominique, j'ai été contacté par le Cherche Midi par hasard à ce moment-là et je leur ai dit non, ça ne m'intéresse pas du tout parce que je suis en train d'écrire une série. Il m'a dit, est-ce qu'on peut lire ? Je dis, écoutez, il y a 15 pages, lisez-les.
Ça se fait rarement dans ce sens-là,
c'est bizarre,
pas
hein ?
Voilà.
Oui, oui. Et en fait, un jour, j'ai dit, tiens, ça pourrait peut-être donner un bon terreau aux scénaristes. Qu'est-ce que tu en penses ? On gagnerait du temps. Voilà, et c'est comme ça que je suis parti. Et je ne le regrette pas parce que j'ai appris des choses de moi aussi. J'ai été plus loin en écrivant ce livre.
Vous et l'avez ça écrit m'a seul.
Oui, seul, tout seul. Il n'y a pas une virgule, pas un accent qui ne soit pas de moi. Il n'y a pas eu de réécriture, si ce n'est pour l'orthographe et la syntaxe. Mais bon, quelques fautes de syntaxe, pas mal de fautes d'orthographe. Et pourtant, j'écrivais avec Word, mais je sais pas, il y a des trucs qui m'ont échappé. Mais sinon, il n'y a pas eu de réécriture, rien du tout. Chaque mot, chaque virgule, chaque accent est de moi. Et c'est important de le dire. Pour moi, c'est important.
Alors, tout au long de cette conversation, on en a profité justement pour remettre les choses en équilibre. Alors là, attention, je vous cite. Anthony va dire, non, j'ai pas dit ça, je vous cite. Votre livre, Entre chien et loup, qui paraît donc au Cherche Midi, s'achève ainsi. Je vis avec un vague à l'âme que j'emporterai avec moi jusqu'au dernier instant. Je ne dirai pas pourquoi, car j'ai déjà la réponse à cette question, mais c'eût été bien.
J'ai dit vague à l'âme.
Oui, vague à l'âme.
Très bien.
Et ouais. Ça se termine par c'eût été bien. C'eût été bien que, allez.
Ça se passe autrement.
Que les choses soient plus douces, plus apaisées, plus harmonieuses.
C'eût été bien que ça se passe autrement. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Mais c'est vrai que voilà, je finis là-dessus en disant que c'était bien. Parce qu'on n'a qu'une vie et parce que c'est dommage. Parce que vous dites, tiens, quand c'est fini, c'est fini. C'est plus à faire. Alors on peut essayer de sauver ce qui reste. Et c'est un petit peu ça, parce que...
C'est pas fini.
Non, bien sûr, c'est pas fini, mais on peut... Voilà. En tout cas, ce livre aujourd'hui m'a fait du bien et a fait du bien à l'autre protagoniste, l'unique survivant qui est mon père.
Merci Anthony Delon.
De rien.
Merci. Entre chien et loup, paraît au Cherche Midi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.